ministère reconnu institutionnellement par les diverses religions, moi, nous autres, vous dites c'est pareil. Hein. Et vous avez aussi tous les autres, c'est-à-dire les enfants et ceux qui restent enfants jusqu'à la fin. C'est évidemment une vocation. Parce que célibat consacré consiste à rester enfant jusqu'à la mort. Donc vous avez regardé l'humanité, il y a trois états de vie. La vocation, c'est pas l'état de vie. La vocation, c'est la modalité particulière par laquelle Jésus va se communiquer au maximum à travers ma vie. Ma vie va être un instrument de sanctification pour le monde, le plus dans telle manière de vivre. Ah ben, vous avez une quatrième catégorie à cause du péché originel, c'est ceux qui ne vivent pas qui vivent ni dans l'enfance, ni dans le mariage, ni dans la consécration, et du coup ils vivent dans les trois en même temps, donc dans le péché. Ben quoi, mais toi tu es dans l'enfance encore, mon toutou. Mais si tu es consacré par le baptême, ma fille, le baptême t'a consacré. Mais les autres, c'est vrai. Ah bon, ben voilà. Je m'engage. La vocation, c'est je m'engage. Jésus m'appelle, il m'appelle, j'ai un temps libre, je m'engage tout de suite. Non, dès maintenant, je m'engage, dès maintenant. Je m'engage. Je vois que Jésus m'appelle à faire le pèlerinage, je m'engage. Tout de suite, 15 jours, je suis engagé, ça y est, bon. Je suis mobilisé. C'est ça le point de vue de l'engagement. Si je m'engage à ce moment-là, ma vocation va apparaître, vous comprenez bien. C'est évident, je m'engage. Allez, je me jette à l'eau. Je me lance à la flotte. Allez. Vous voyez, vous comprenez. Alors à ce moment-là, si je fais ça, vous allez voir que la modalité particulière de ma vocation va apparaître. Parce que je m'engage, je me demande si c'est le mariage. Eh bien, je montre que je suis, si ma vocation, je pense que c'est le mariage, je montre que je suis postulant, vous voyez. Donc, je m'engage. Je montre que je postule. Donc, vous voyez, je m'engage. Je m'engage, je ne vais pas rester dans le coffre de la voiture en disant, oui, 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 j'ai vocation pour visiter de mariage. Mais non, je m'engage, je cause, je sais pas, je me fais belle, je me fais beau, Puisque c'est saint Thomas qui dit que la beauté est la disposition principale au mariage. Alors je me fais beau, je me fais belle. C'est sûr, je souris, je montre que je suis de bonne humeur, que je suis tranquille, que je suis du bon pain. Je m'engage. Et puis, si à mesure que je m'engage, je m'aperçois que ça colle pas, jamais, je dis tiens, moi je vais m'engager autrement. Tiens, je vais m'engager à faire une retraite de 15 jours dans un Carmel. Je vais m'engager. Oh purée, ça marche les mecs là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu vois, alors, à force de s'engager, ma vocation apparaît. Faut pas avoir peur de s'engager tous azimuts. Et que si vraiment on n'est pas tous azimuts, dans la tendresse, dans l'amitié masculine-féminine, ça, faut y aller à fond. À fond. Selon l'enseignement de l'Église, mais à fond. Et puis je m'engage à fond en même temps dans les retraites en foyer de charité, dans les retraites Carmel, je vais partir dans la montagne. C'est excellent ça. 10 jours seul, avec uniquement du pain, vous vivez, hein. Un pain seulement. Et 5 pommes. Vous vivez 10 jours, sans aucun problème, dans une grotte. Vous pouvez prendre du vin si vous voulez. Un verre de vin par jour en plus, alors là vous êtes en pleine forme. Il faut s'engager comme ça, vous voyez. Il faut s'engager dès que j'ai un moment de libre. Bon, j'ai un moment de libre là par exemple, le mercredi soir, j'ai un moment de libre toujours. À Paris, entre 8h et 11h, Je m'engage où ça? Ben, je vais m'engager justement dans plein de trucs. Allez hop, évangélisation au quartier latin. Je vais lire la Bible comme ça, plein quartier latin, je vais proclamer l'évangile. Plein quartier latin. Si j'ai peur tout seul, ben, j'y vais avec des copains, on fait un petit commando et hop, petit commando. Bon, si j'ai trop peur, eh ben très bien, je vais m'engager, je vais passer à Montmartre, et tous les mercredis, entre 8h et 10h, je vais adorer le Saint-Sacrement à Montmartre. Bon, c'est un peu sec, c'est vachement dur, j'y arrive pas, c'est pénible, ça me fout le cafard, très bien. Ben vite, je me précipite, je vais vite dans les hôpitaux, je vais à Garches, et je vais voir tous les jeunes qui viennent d'avoir un accident de moto, qui d'un seul coup se trouve paralysé. Je vais visiter les jeunes qui sont là régulièrement, je vais me faire des amis. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Je m'engage. Vous voyez, alors à ce moment-là, petit à petit, vous allez vous apercevoir si votre vocation, c'est une vocation de service. Parce que, si vous voulez, on le fera, les cinq vocations. Hein. Les cinq vocations d'après l'évangile de Saint Jean. Vocation contemplative, voyez, vocation apostolique, vocation de service. Qu'est-ce qu'il y a? C'est justement toutes les grandes artères. Vocation de ministère. Vous voyez, Saint-Pierre, c'est le ministère. Et puis, je ne sais plus quelle est la cinquième, je vérifierai.
Vers 1200 et quelques, 1220 par là. D'ailleurs, Saint-François d'Assise aussi est passé par toutes ces routes d'Espagne vers les années 1222. Il passait par ici pour en 1218, par là, pour aller se faire martyriser chez les musulmans. Et malheureusement, les musulmans n'ont pas voulu le martyriser. Alors, désespéré. Il est revenu. Il est reparti une seconde fois, passant par ici. Et désespéré non plus, il est revenu désespéré qu'on n'ait pas pu le... La première fois, il est revenu parce qu'il est tombé malade. Et la seconde fois, parce que le sultan n'a pas voulu le martyriser. Au contraire, il lui a dit, mais vous venez parler de Jésus, Tsinaïssa, je vous donne toute liberté pour parler à tous mes hommes. Alors il a vu qu'on parlait de Jésus, personne... Tout le monde était très poli, très intéressé de voir cette espèce de type avec sa bure grise, parce qu'il était habillé en gris. C'était un petit gris aussi. Il a commencé en gris, parti des pèlerins en gris, et il est mort en gris. Mais entre-temps, il y a eu un habit marron. Mais sinon, les trois, le début, la volonté du martyr et la mort, c'était dans un habit gris. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Mais donc, en tout cas, il a terminé par 50 vies contemplatives, si mes souvenirs sont exacts, parce que je reconnais que je n'ai pas trop regardé depuis 8 ou 9 ans, mais donc je fais de mémoire. 13 ans avant, il a passé 13 ans à évangéliser, donc 13 ans d'apostolat, 50 vies contemplatives, ça fait 18 ans, et... Il avait commencé ses 13 ans de vie apostolique par le sacerdoce qu'il a eu à l'âge de 33 ans. Auparavant, il était resté 7 ans chanoine de Saint-Augustin en Espagne. Donc vous voyez, c'était un très extraordinaire. Hein? 7, 33, 13, 5. C'est merveilleux ça. Tu vois? Alors Saint-Dominique, c'est celui qui représente l'Église qui prêche. C'est l'ordre prêcheur. L'Église qui explique, qui rappelle, qui défend la vérité enseignée, sortie de la bouche du Christ. C'est pour ça que je me suis amusé un jour, justement, on écoutait au réfectoire à Rimont la vie de Saint Dominique. Quand j'entendais ça à mesure, 33 ans, etc., je me suis dit, tiens, Saint Dominique, puisqu'il est celui qui prêche, sa vie tout entière doit structurer prophétiquement tout l'enseignement, toute la vie apostolique de l'Église qui prêche à l'univers
la vérité sortie de la bouche du Christ. Et donc j'ai fait un petit calcul mental qui a duré à peu près 2 secondes. Et j'ai multiplié par le chiffre sacré, très connu, n'est-ce pas, de 40. 40. 40 et 40 jours du désert, traversée, tout ça. Et j'ai multiplié par 51, regardant toutes les étapes, 33, 13, tout ça. Et ça tombait en effet parfaitement bien. Sur toute l'histoire de l'Église, c'était structuré exactement par la vie de Saint-Dominique. Et la vie de l'Église se termine dans la contemplation mariale, 5, vous voyez. 5 fois 40, en 2 siècles. Enfin, si vous faites le calcul, faites-le vous-même, hein, vous verrez que vous arrivez à peu près à 1994, par là. Enfin, vous pouvez rajouter, je crois que c'est avec 39, donc si vous me prenez les 30, 40, vous avez encore 40 ans de rab. Au choix. Bon. Enfin, c'était très intéressant. Et mais je m'étais dit, tiens, il y a eu un événement marquant certainement dans l'Église, il y avait un événement que je n'arrivais pas à trouver. C'était ce qui correspondait à 33 ans. Multiplié par 40, alors je ne sais plus quel calcul ça fait, hein, 3 fois 4, 12, 3 fois 4, 12, 200, 1312, comme ça. Bon. Alors je me suis dit, tiens, il y a eu quelque chose de très important là, très très important qui s'est passé. J'ai demandé au frère qui était historien dans la communauté spécialiste, docteur en histoire, tu vois, il m'a dit, est-ce qu'à telle date, il n'y a pas eu quelque chose de très très important? Il m'a dit non, rien du tout. Je dis, ah bon, ben, c'est de la connerie, mon histoire. Enfin, j'ai quand même été par scrupule aller voir dans le dictionnaire. Et puis j'ai vu qu'à cette date-là, exactement, ça avait été la grande séparation de l'Église d'Orient et d'Occident, à partir de laquelle l'Église, justement, a été. C'est vraiment la date exacte. Incroyable. Première fissure de l'Église. C'est la première grande fissure de l'Église, parce que les autres, c'était des hérésies, ils sont partis, c'est différent, tandis que là, c'est l'Église. Et elle est fissurée en deux. C'est à ce moment-là qu'il a reçu le sacerdoce, vous voyez ça. Le sacerdoce, c'est la plaie de Jésus qui pénètre dans l'âme du chrétien pour être féconde. C'est par ces blessures que nous sommes féconds. C'est par la croix que nous sommes féconds. Par la souffrance que l'amour peut jaillir de manière beaucoup plus profonde dans notre âme. Et du point de vue sacerdotal, c'est ça. Par le renoncement, le sacrifice, la déchirure. Oui. Par la souffrance de la croix, c'est-à-dire une souffrance qui n'a pas été recherchée, mais parce qu'on choisit ce qu'on aime, on choisit Dieu parce qu'on l'aime. On choisit ses frères parce qu'on les aime, on choisit sa fiancée parce qu'on l'aime, on choisit son ami parce qu'on l'aime, mais on ne choisit pas ses croix. Les croix, elles sont là. On ne les choisit pas, mais on les accepte. Si elles sont là, mais on ne les cherche pas. Mais quand elles sont là, on les accepte, on les accueille et on les offre. Une souffrance qui est offerte devient une croix. Quand je parle des souffrances qui sont des croix, c'est une souffrance qu'on n'a pas cherchée, ce serait du masochisme, mais elle est là, je l'assume, je l'offre. Je l'offre avec gratitude. Merci Seigneur, j'ai enfin quelque chose à t'offrir. Mais on ne choisit pas ces croix, on n'a pas le droit. Je parle de ces souffrances-là, toutes les souffrances, quelles qu'elles soient. Ce qui fait que la souffrance est sacerdotale, c'est qu'elle va être offerte au Seigneur pour aimer plus et pour que l'amour soit victorieux de la souffrance. Je vais bondir au-delà de la souffrance pour aimer plus et pour que l'amour se répande davantage dans le monde. Très bien. Donc là, c'était une petite parenthèse introductive parce qu'on devait voir Saint-Dominique. Elle avait fait faire un petit couplet sur Saint-Dominique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Saint-Dominique, mais... Beaucoup trop de choses à dire sur Saint-Dominique. C'était fabuleux Saint-Dominique. Très bien. Et pas du tout ce qu'on croit, Saint-Dominique. Pas du tout. Un type fabuleux, c'est pas du tout l'inquisiteur, le machin. C'est extraordinairement génial, Saint-Dominique. Dans la règle, c'est un petit peu dans la règle un jour, justement, dans ces 5 dernières années, à Stylos, on aurait dû aller. Dans la règle de Saint-Dominique, on dit les frères, à l'heure de la cloche, se rendront au réfectoire pour prendre la nourriture que le Seigneur leur a donnée. Alors, il n'y avait vraiment plus rien, même pas du pain. Plus rien. Alors, on a dit à Saint-Dominique qu'il n'y a plus de pain. Et il a dit, c'est la règle. Vous sonnez, et puis c'est tout. Alors, ils ont sonné, tout le monde est allé au réfectoire. Alors, père, est-ce que vous avez dit à le bénédicité? Il n'y a rien à bénir. Il dit, mais c'est la règle. Il a dit le bénédicité, et au moment où il disait le bénédicité, les portes du réfectoire se sont ouvertes. Deux anges en blanc se sont présentés, sous figure humaine, avec des corbeilles de pain doux. Et ils ont servi eux-mêmes, tous les moines, et ils sont repartis. C'est parfait, c'est, on pourrait raconter des milliers d'histoires de Saint-Dominique comme ça, c'est extraordinaire, parfaitement authentique, pas du tout légendaire. Très bien. Alors maintenant, on fait question-réponse ou bien on prend un thème précis et je le développe? Parce que ça, c'était en attendant que tout le monde soit là. Alors, quelqu'un m'a posé la question, quelles sont les questions que... Quelqu'un m'a posé la question sur la confession, puisque on est branché sur les confessions en ce moment-là. Une question. Le sacrement de pénitence, c'est Gloria qui m'a dit ça. Où est-ce qu'elle est, Gloria? Elle a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne se confesse pas tout seul? Pourquoi? Parce que c'est vrai, après tout, se confesser tout seul. Parce qu'après tout, si je demande pardon à Jésus, je demande pardon à Jésus. Quand même, Dieu me pardonne. Si je lui demande pardon, il me pardonne. Pas possible autrement. Donc, pas besoin d'aller voir le prêtre. Pas besoin d'aller voir un instrument. Mais habituellement, si vous voulez méditer cette question-là, vous prenez l'évangile de Saint-Luc. Et puis vous regardez, vous savez... Quand Jésus parle qu'il est chez Simon et que la pécheresse pardonnée est morte, hein, et que Marie se précipite, il est invité chez Simon le pharisien, et c'est une immense pièce, il y a beaucoup de monde, avec des colonnades, des grandes colonnades pour rentrer. Il faut vraiment traverser tout dans tout le monde. Et alors, il y a tout le banquet, tous les gens qui sont là. Et elle, Marie, Madeleine est là. Et elle veut vraiment demander pardon à Jésus. Mais seulement, il y a tout ce monde. Alors, elle est derrière la colonne, elle regarde. Il y a Jésus qui est là-bas au front. Et puis, tout ce monde qu'elle connaît et comment. Alors, elle se demande comment elle va faire. À un moment, ni une ni deux, c'est Jésus qu'elle regarde. Et elle traverse. Elle traverse. Les regards humains, les regards pharisiens, les regards terrestres. De ceux qui sont unis à Jésus dans toutes les apparences du repas. Se précipite sur lui, pleure sur ses pieds, loin du parfum. C'est en général cet évangile-là qu'on prend pour expliquer le sacrement de pénitence. Parce que vous avez toutes les dimensions du sacrement de pénitence qui sont là. Parce que quand vous allez voir le prêtre, tout est présent. Vous voyez, le prêtre, il y a en lui Simon le pharisien, il y a en lui le pouvoir sacerdotal de Jésus, il y a en lui tous les invités qui curieusement regardent, complices, il y a ceux qui jugent, etc. Et Jésus dit que le pardon est absolu parce qu'elle a prouvé beaucoup d'amour, a montré beaucoup d'amour et donc pardonné beaucoup. Donc le pardon est inscrit à l'intérieur de l'amour et l'amour se prouve de manière incarnée par ce fait que je suis passé à travers un instrument. et qu'à travers la foi, par la foi, par l'amour, j'ai passé au travers de cet instrument pour atteindre les pieds du Christ. Les pieds, c'est le zèle du Christ. Le zèle du Christ. Alors voyez, quand je demande pardon, alors ça c'est la piste pour méditer, hein. Vous pouvez méditer cet évangile, vous verrez que vous avez les sept aspects du sacrement de pénitence sont dedans explicitement. Mais je demande pardon à Dieu, mais il me pardonne quand même tout seul le soir, comme les protestants. C'est une question protestante, une question luthérienne. Enfin, la question n'est pas luthérienne, pardon, non, mais c'est une interrogation que ne se posent même plus les luthériens, puisqu'ils l'ont résolu, hein, leur problème. Ils ont dit, bien sûr, on est complètement pardonné, il suffit de faire confiance dans la miséricorde de Jésus, et c'est bon. Et voilà. Seulement, voilà le problème. C'est que le sacrement de pénitence est un sacrement. Alors, il faudrait faire, bien sûr, la catéchisme du sacrement, ici. Catéchisme du sacrement, ce qu'il faut absolument savoir, absolument, c'est que dans tous les sacrements, il y a une matière et il y a une forme. Par exemple, dans le baptême, la matière, c'est l'eau. Si je baptise la petite Marie avec du sable, et je dis, je te baptise au nom du Père, même si je suis le pape, il n'y a pas de baptême. Le caractère du sacrement de baptême ne pénètre pas dans son âme et elle n'est pas incorporée réellement. Oui, donc, dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est du pain et du vin. Très bien. Et si je prenais par exemple de l'huile à la place du vin, ça ne marcherait pas. C'est arrivé une fois chez nous. Prière générale est arrivée, dire la messe à Montmorin. Le prieur a dit,
vous êtes des imbéciles, vous confondez tout, c'est moi qui préparais les burettes.
Il a 75 ans. 75 ans, c'est lui qui a préparé les burettes, patatras, il a confondu la bouteille d'huile avec la bouteille de vin, si bien qu'on a célébré solennellement, avec le prieur général. Et au moment où il a communié au sang de Jésus, enfin à l'huile, il a eu un mouvement d'hésitation, il a continué la messe, et à la sacristie, il a dit au père prieur, j'étais là, on était tous les trois. Moi, je servais la messe comme diacre. Il a dit, c'était de l'huile. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'on fait?
Alors,
on a vu le père Emmanuel tourner dans tous les côtés.
Ah, mais pourtant, j'ai pris la mesure.
Alors, Père Emmanuel a dit, bon...
Eh bien, restez ici, vous consacrez, toc, voilà, tu vas, toc.
Et dans la sacristie, il a reconsacré. Les autres faisaient leur action de grâce pieusement. Ils venaient de recevoir l'Eucharistie du Père Prieur Général. Et puis, il a consacré et a communié. Vous voyez ? Donc, le sacrifice a eu lieu dans la sacristie en 30 secondes. Il a dit les paroles minimum. Vous voyez ? Donc le sacrement, s'il n'y a pas la matière, il n'y a pas de sacrement. Pas compliqué. C'est très simple. Pardon ? Et non, justement, c'est ce que je te dis. Comme il y avait de l'huile, il n'y a pas eu le sacrifice. Les autres avaient communié, mais exactement, ils ont eu la même grâce, puisque, on l'espère, du moins, puisque c'était proportionné à leur foi à ce moment-là. C'était proportionné à leur foi, mais ils se sont rattrapés le lendemain à la messe suivante, sans le savoir. Il valait mieux pour le bien des fidèles, n'est-ce pas, que... Donc, voyez. Alors, donc, dans les sacrements, s'il n'y a pas la matière, il n'y a pas de sacrement. Dans le sacrement de pénitence, la matière... Oui, mais c'est évidemment pas la matière qui est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que les paroles du Christ pénètrent à travers, précisément, le ministre, pénètrent dans la matière, pulvérisent la substance de la matière, et transsubstancie la matière, mais une autre substance, c'est-à-dire mais la substance du corps du Christ. Et dans l'eau, là, dans la substance de l'eau, toute la très sainte Trinité s'enfouit intégralement. Il n'y a pas une partie de la très sainte Trinité qui ne va pas dans l'eau pour, à travers le contact avec la peau, pénétrer toute l'âme. À partir du moment où on est baptisé, toute la Trinité est présente dans l'âme. Le ciel tout entier. C'est ça plus important que l'eau, bien sûr. Puisque l'eau, c'est seulement une condition sine qua non, c'est tout. Dans le sacrement de pénitence, la matière du sacrement, c'est quoi? C'est le fait de demander pardon à Dieu, tout seul. C'est ça la matière. La matière, c'est que je demande pardon, je suis désolé d'avoir... Je ne suis pas tellement désolé, en réalité. Je n'ai pas du tout de contrition, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, bien sûr. Ça m'a été très agréable. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'était tellement connaturel. Ça me travaillait tellement. Alors, je ne pouvais pas faire autrement. D'une certaine manière, je suis désolé d'avoir quand même blessé Jésus. Ça, de mon côté à moi, ça va. Mais comme je sais... Mais du côté que je sais que, quand même, Jésus, ça... L'amour de Jésus est un peu blessé, je suis désolé. C'est là-dessus que je suis désolé. Et donc, je lui demande pardon. Je demande pardon. D'accord? Mais vous comprenez bien que votre contrition, qui est la matière du sacrement, concile de Trente, c'est la contrition. La contrition porte sur le fait que vous savez que Jésus est broyé à cause du péché, si vous voulez, que son amour est blessé à cause de ce que vous avez fait, et donc vous exprimez que vraiment vous en êtes désolé, que vous désirez le consoler. Ça, c'est la matière seulement, c'est seulement la matière du sacrement, ça. C'est pas la forme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que ma contrition n'est pas terrible. C'est sûr que si je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonnera. Mais dans la mesure de ma contrition est nulle. Qu'est-ce que va faire le sacrement? Va prendre la matière minuscule de ma contrition largement humaine, enfin, même peut-être théologale, si vous voulez, surnaturelle, peut-être éventuellement, mais... Quand même, ce théogal est fini, il est créé, donc c'est quand même limité. C'est nul à côté de cette espèce de miséricorde qui unit le Fils incarné sur la croix avec son Père. Et transformé dans la demande de pardon que Jésus sur la croix fait au Père, en votre nom, à votre place, en prenant sur lui tous les châtiments. C'est évidemment une autre... un autre poids, bien sûr, demande de pardon. Et c'est le seul moyen par lequel vous pouvez atteindre le pardon du Père. Parce que vous pouvez demander pardon à Dieu, mais vous n'atteignez jamais le Père en dehors du sacrement. Il n'y a que le Christ, lui-même, qui peut atteindre le Père. Et il n'y a que le sacrement qui donne le Christ dans sa plénitude, réellement, substantiellement, transsubstantiellement.
Le Père en même temps le Christ.
Je comprends. Ils imaginent que c'est le Père, mais c'est quand même eux qui demandent pardon. C'est pas Jésus. Le sacrement fait que ta demande de pardon à toi, par exemple, l'hostie, à partir de la transubstantiation, c'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. D'accord? À partir de l'absolution, ou dans l'absolution, ta contrition est prise par... accueilli par le prêtre, donc, qu'il donne à Jésus, et Jésus te pardonne les péchés, ça veut dire que cette transsubstantiation fait que ce n'est plus ta demande de pardon à toi, c'est Jésus qui la prend et qui la transforme en dans la demande de pardon qu'il fait, lui, sur la croix, au Père, lui le Fils, le Verbe incarné, au Père, à ta place, en prenant sur lui les châtiments correspondants, c'est-à-dire toute la croix. Ça a un autre poids que ta petite demande de pardon. Tu vois. Il y a une transubstantiation, une transformation totale. Bon. C'est compliqué à comprendre ça ou bien? Vous y arrivez à comprendre ça ou bien c'est trop compliqué? C'est pas, j'ai l'impression que tu comprends pas ça. Ouais. Alors, à ce moment-là, quand vous faites avance, comme vous disiez hier, il y a trois conséquences. Vous voyez? Trois conséquences qu'on disait hier. Comprenez, souvent on fait une faute, on ne se rend pas compte de toutes les perturbations que ça met à l'infini du cosmos, si vous voulez, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, dans mes habitudes, dans les enfants que je vais avoir jusqu'à la cinquième génération, comme dit l'Écriture. C'est fou les conséquences que ça va avoir. Dans ma vie conjugale, jusque dans 50 ans même, dans 50 ans, je vais avoir des disputes invraisemblables pendant 58 uniquement à cause d'un péché que j'aurais commis à 18 ans. Des conséquences folles, des conséquences tous azimuts, même sur le plan divin. Même sur le plan divin. Des conséquences infinies, un seul péché. Donc quand je demande pardon, je ne prends pas conscience de ça du tout quand j'ai fait péché. Moi-même, je ne demande pas pardon pour tout ça. C'est impossible pour moi puisque je n'ai pas l'omniscience de Dieu, ni la profondeur de l'amour miséricordieux de Dieu. Je n'ai pas un cœur aussi vulnérable que celui du Christ. Et donc, je n'ai absolument pas conscience de ma demande de pardon. Ne peut pas être suffisante. Alors, Dieu me pardonne, bien sûr, dans la mesure de ce que je lui demande, mais pas plus. Et le Christ, dans le sacrement de pénitence, pardonne jusqu'à la racine, c'est-à-dire des millions de fois plus profond et radicalement. Pratiquement, donc, entre l'un et l'autre, il y a une différence abyssale. Il y a un abîme. C'est ça que l'absolution va jusqu'à la racine. Vous voyez, c'est facile à comprendre, ça. Tous les sacrements, c'est pareil. Hein. Sacrement de mariage, sacerdoce, tout ça, c'est pareil. C'est toujours le même principe, c'est toujours la même chose. C'est pas compliqué, les sacrements, c'est toujours le même principe. Alors c'est à cause de ça, vous voyez qu'on passe à travers un instrument. Il y a une seconde raison, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu parle sans intermédiaire. Moïse, Abraham. Mais à partir du Nouveau Testament, apparaissent les intermédiaires. Annonciation, Dieu ne parle pas directement, il envoie son ange. Pourtant, à Marie, il aurait pu parler directement. Hein? Quand même. Non, non, il envoie l'ange Gabriel. Il envoie des instruments, si vous voulez. Et vous pouvez regarder, hein, c'est toujours des instruments à partir du Nouveau Testament. Parce que ça permet précisément, à travers ces instruments, de faire que la charité soit encore plus grande. Parce que la foi est plus pure. Il n'y a pas de signe. Et l'instrument parfait, c'est le sacrement. C'est le signe le plus efficace parce qu'il met tout de suite dans l'instrument parfait qui est celui de Jésus dans son incarnation. Troisième manière de regarder la même chose, puisque c'est une question qui est un peu protestante, c'est de regarder ce que c'est que le protestantisme. C'est une histoire que je raconte souvent parce que quand j'étais éducateur des rues à Montpellier dans les années 74, par là, 65, 15, 16. Un jour, il y avait une réunion œcuménique. Il y avait des protestants, des catholiques. J'aime bien raconter cette histoire là, parce qu'elle est extraordinaire. Au point de vue théologique, elle est extraordinaire. Alors, on est très unis, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'Écriture, la parole de Dieu. Le pain partagé, etc., le mémorial du corps et du sang du Seigneur, tout ça, nous sommes parfaitement unis, une seule foi, etc. Enfin bref, ça roucoulait là-dedans, il n'y avait aucun problème, aucun problème, aucun problème. Enfin, au bout d'une heure, moi, dans mon innocence, oui, c'est vrai, très innocent, enfin, pas du tout exprès. C'était le pasteur Schmitt, hein, il était venu de la porte ouverte, c'est un grand type, pasteur Schmitt, attention, hein, c'est un très grand pasteur protestant de France, hein. C'est pas du tout, attention, hein, c'est... Alors, les dominicains qui étaient là de Montpellier n'osaient rien dire. Donc je pose la question. J'aime bien cette histoire parce que dit mais monsieur le pasteur, je comprends pas. Il doit quand même y avoir une différence parce que on vous appelle encore protestants et nous catholiques. Donc je sais pas, l'unité semble n'est pas totalement achevée. Est-ce que vous pourriez nous dire, je sais pas, quel est le dernier truc, la dernière chose qu'il faut résoudre pour que ça soit totalement fait. Puisque là, semble-t-il, c'est presque fait. Donc, vous avez donc. Bon. Alors, il a répondu de la manière suivante. Il a un peu tergiversé, puis il a dit bah, écoutez, la seule barrière qui sépare, au fond, les protestants des catholiques, et qui fait qu'on ne peut pas faire la jonction encore, c'est la question de la succession apostolique. Ah, c'est un pseudo pasteur. Qu'est-ce que c'est que la succession apostolique? Ah, ben la question apostolique, c'était devenu glacial. Qu'est-ce qui va nous foutre en l'air toute la réunion œcuménique? Ben oui. Ça m'énervait tellement. Pourtant, j'aime bien les protestants. J'ai beaucoup travaillé avec les protestants. Attention. Mais j'aime pas le mensonge. J'ai horreur de ça. Alors, vous aussi, c'est pareil. Alors donc, il me dit, ben voilà, la succession apostolique, c'est très simple. C'est le fait que Jésus a donné son pouvoir sacerdotal à Saint-Pierre, aux douze apôtres, et que les apôtres, il leur donnait réellement, on le voit, c'est dans l'Écriture, le pouvoir de transmettre ce pouvoir par imposition des mains, sacramentellement, par imposition des mains aux successeurs. C'est comme ça que Saint Jean a imposé les mains à Saint Polycarpe, à Polycarpe qui était disciple de Jean. Jean a transmis le pouvoir parce que Antioche était passé en allant à Rome pour dire à Polycarpe, dis donc, est-ce que tu pourrais pas au passage me trouver un successeur pour Antioche? Parce que moi je vais à Rome me faire décapiter, je sens les dents des bêtes qui m'appellent pour être broyé sous la dent des bêtes. Alors vous avez la belle lettre de Saint Ignace d'Antioche à Polycarpe, et il dit, allez, trouve-moi un successeur. Alors Polycarpe prend un de ses disciples, impose les mains et donne le pouvoir, il devient évêque d'Antioche. L'évêque d'Antioche impose les mains à son successeur qui, hop, il est envoyé, ce mec-là à Lyon, qui impose les mains à l'autre, qui s'appelle Saint-Irénée, qui impose les mains à son successeur, etc. Directement, le pouvoir se transmet des mains du Christ, physiquement, directement à chaque fois, sans aucune rupture. Puis, c'est arrivé à l'archevêque de Lyon, qui a imposé les mains à Monseigneur Segui, qui m'a imposé les mains à moi. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc, entre moi et Jésus, le pouvoir sacerdotal s'est transmis directement. Tandis que, disait-il, évidemment, à partir de Luther avait reçu le pouvoir sacerdotal, il était prêtre. C'est pour ça qu'au début, il faisait aucune difficulté sur l'Eucharistie. Ni sur Marie, déjà. C'est pas du tout donc le problème. Et c'est pour ça que les protestants, les luthériens, prennent les textes de Luther par rapport à l'Eucharistie, parce que lui était prêtre. Mais ils le savent bien, d'ailleurs. Mais la génération d'après, Luther, il s'est marié avec une bonne sœur, pas l'oublier. Eh ben oui. Il était moine, il avait la. Eh oui, alors, ça, c'est pas le pasteur Schmitt qui dit ça, attention, il n'y a pas. Donc, vous voyez les parenthèses que je fais, moi perso, bon. Mais c'est le petit dialogue entre pasteur Schmitt et ma pensée. Toi. Donc, un très grand bonhomme. Alors, il a dit voilà, Luther, la génération d'après Luther, il n'y a plus de prêtre. Donc, à partir de Luther, il n'y a plus de transmission du pouvoir sacramentel pour transsubstantier le pain, c'est pour ça que je vous dis ça, pour le pardon des péchés, etc. Et surtout pour faire d'autres prêtres. Alors, monsieur le pasteur, est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je comprends pas? Parce que si vous, vous me dites ça, ça veut dire qu'au fond, bah, vous pensez qu'en effet, vos scènes eucharistiques ne sont pas des réelles eucharisties et que vous ne prenez pas le corps du Christ bois dans l'assemblée. Pas du tout. Nous, moi, quand je suis la scène, c'est le corps du Christ. C'était avant. Alors, le pasteur Schmitt a fait comme ça. Bon. Dis, mais monsieur le pasteur, excusez-moi. Mais est-ce que je trouve ça très intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est la solution alors? Comment vous voyez l'œcuménisme dans ces conditions? Ah ben dis, je vois l'œcuménisme dans ce sens que voilà, un petit peu comme on essaye de le faire en Inde en ce moment, de demander aux évêques catholiques d'imposer les mains aux pasteurs protestants pour qu'ils retrouvent la succession apostolique. Ah, monsieur le pasteur, est-ce que j'ai une question à vous poser? Mais parce que je lui avais dit, mais monsieur le pasteur, pourquoi est-ce que vous ne faites pas catholique? C'est ça que je lui avais posé comme. Alors pourquoi vous ne faites pas catholique dans ces cas-là? Je ne comprends pas. Il dit parce que, il a une réponse très belle, mais je ne suis pas d'accord, mais enfin, elle est très belle en disant, j'estime que l'œcuménisme, c'est la rencontre, c'est le peuple tout entier protestant qui doit rentrer dans la succession apostolique, c'est pas individuellement. Mais pour moi, l'œcuménisme consiste justement à ne pas le faire, à me refuser à le faire, si c'est pas toute l'Église luthérienne qui le fait. Ce qui est faux, hein, puisque la foi et la conversion, c'est une question de personne. Parce que Jésus et Dieu n'a jamais converti un peuple. Jamais. Dieu convertit, c'est des relations personnelles. L'Église, c'est un tissu de relations personnelles. Et son truc, c'est un truc de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, oui, Dieu conduit un peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est des relations personnelles. Donc c'est faux. C'est ma parenthèse. Enfin, c'est la petite erreur de pasteur Schmitt. C'est la seule erreur de son discours. Sinon, tout était parfait. C'est absolument extraordinaire. C'est vrai. Absolument est extraordinaire. Alors donc, j'en étais à ceci. Donc, il suffit que tout le monde impose les mains aux pasteurs protestants. Et donc, ils sont réintégrés dans la succession apostolique. Et donc, ils ont à nouveau le pouvoir sacerdotal, et de cette manière se fera l'œcuménisme. C'est pas mal, hein?
C'est le problème du mariage aussi, parce que le pasteur est
tout le temps marié. Ah, mais ça, c'est le mariage, ça n'enlève.
Ça n'enlèverait rien?
Non, le sacrement de mariage est valide chez les protestants.
Même s'ils avaient ensuite le pouvoir sacerdotal, ils pourraient garder cette possibilité de se marier.
Ah mais non, mais ça c'est la solution qu'il donnait lui. De toute façon, dans la tradition catholique, il y a des prêtres mariés. Chez les maronites catholiques, il y a des prêtres mariés. Chez les orthodoxes uniates, prêtres sont mariés. Chez les orthodoxes uniates, ça veut dire catholique. Hein.
Ouais.
Donc on peut être prêtre et marié, ça c'est pas une difficulté. Ça touche pas le sacrement de sacerdoce, d'être marié. Mm-hmm. Sauf dans le rite latin. Dans le rite romain, oui. Voilà. Bon, donc, tout ça pour dire que le sacrement de pénitence, vous voyez, c'est une question protestante à cause de ça. Parce que comme ils n'ont plus donc le pouvoir, la succession apostolique, ils n'ont donc plus le pouvoir transsubstantier le pardon et la contrition de leurs fidèles, ils peuvent tout au plus rajouter, j'allais dire, le mérite de venir le confesser à quelqu'un, mais de là à le transformer dans la demande de pardon que Jésus a fait sur la croix, en son nom, bah, c'est autre chose. Ça relève du pouvoir sacramentel. Donc, vous voyez, et c'est un petit peu à cause de ça, comme on est protestantisé, si vous voulez. L'Église catholique aujourd'hui est protestantisée, puisque le refus de la doctrine et du dogme revient à tomber dans le protestantisme. Et si vous n'avez pas été formé en catéchisme, vous êtes nécessairement avec des schémas protestants. Il n'y a que le dogme qui fait de vous un catholique. C'est évident d'ailleurs.
Par rapport à l'Eucharistie, protestant, catholique.
Dans l'Eucharistie, Il y a transsubstantiation, puisque le prêtre a le pouvoir transsubstantier. Et chez les protestants, ils font les paroles de la consécration. Ils considèrent que c'est vraiment le corps de Jésus. Mais c'est, un peu comme chez certains orthodoxes, pas tous, c'est proportionnel, la présence réelle est proportionnée à la foi de l'assemblée. C'est-à-dire que si... Un peu l'histoire de mon huile tout à l'heure. Vous voyez ? Ils le vivent dans la foi et la charité, donc ils reçoivent la même grâce eucharistique en fonction de leur foi. C'est une grâce eucharistique qu'ils reçoivent. Mais ça n'est pas le corps de Jésus, substantiellement. C'est le corps de Jésus par la foi. Si jamais dans l'assemblée, il y a 200 personnes qui n'ont pas la foi, enfin très peu, eh bien ils font ça, c'est pas le corps de Jésus. Tandis que si vous avez 200 catholiques qui viennent à la messe, que personne n'y croit, tout le monde pense à la guitare du jazz qui est au moment où on fait les consécrations et tout ça, tout le monde, vous comprenez, ou à la danse de la Carmélite autour de l'autel pendant que la communion, alors... Ben oui, alors, à ce moment-là, ça ne fait rien, c'est le corps de Jésus, et c'est transsubstantié. Et la preuve, c'est que quand tout le monde est parti, on met le corps de Jésus, on l'adore. Tandis que le pain qui reste sur l'autel, une fois que tout le monde est parti, on le jette. Chez les protestants, ben oui, puisque c'est pas de difficulté, c'est du pain. Donc, mais seulement au moment de la synaxe protestante, si vous voulez... C'est réellement le corps de Jésus, d'une certaine manière, mais proportionnellement à la foi des fidèles. Donc au moment où les fidèles sont partis, la foi n'y est plus, puisqu'elle n'est pas active par rapport au pain, et donc le pain n'a plus sa valeur de corps. C'est seulement en fonction de la relation de foi que les gens ont par rapport à... Non, collectivement, justement. Ouais. C'est la foi de tous qui fait... le mémorial qui fait, mais sûrement la foi de tous, même ça n'atteint pas, bien entendu, jamais, ça n'atteint jamais la transsubstantiation eucharistique, évidemment. Parce qu'à la transsubstantiation eucharistique, c'est Jésus qui, avec son propre pouvoir, transsubstantie, point final. Et Jésus récapitule en lui infiniment plus que toute la foi de tous les saints du monde entier. Ah, il le fait au moment de dire « Ceci est mon corps ». C'est à ce moment-là qu'il y a la transsubstantiation.
Non, mais je crois que chez les protestants.
Ah, mais chez les protestants, c'est pareil. C'est le fait de dire la scène. C'est le mémorial, l'ensemble du mémorial qui fait pas la transsubstantiation, puisque justement, il n'y a pas de transsubstantiation, mais une transfinalisation et une transformation. Non, une transfinalisation, c'est-à-dire que le pain qui normalement est fait pour être mangé, pour nourrir, est transfinalisé. C'est-à-dire la finalité de ce pain-là est pulvérisée et on met une autre finalité, à savoir d'y reconnaître le corps de Jésus. Il y a une transfinalisation, une transintentionnalisation. Alors, quand des protestants viennent à une messe catholique, s'ils s'approchent de l'Eucharistie, ils n'ont pas le droit de le faire s'ils ne croient pas à la transsubstantiation. C'est-à-dire s'ils ne sont pas prêts à adorer ce Jésus-là, exposés, ne peuvent pas accéder, sinon ils le prennent pour leur condamnation. C'est ce que dit saint Paul. Celui qui prend le corps du Christ sans discerner le corps du Christ, substantiellement, le prend et le mange pour sa condamnation. Si le catholique va prendre, tu peux très bien manger un mémorial, un pain transfinalisé, mais ce n'est pas le corps de Jésus. Tu peux prendre quelque chose qui symbolise le corps de Jésus. Tandis que dans l'Eucharistie, ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. C'est aussi une transformation chez les luthériens. C'est une transformation. C'est-à-dire le pain a forme de pain, si vous voulez, et il a une nature de pain, et avec le mémorial et la scène protestante, ça n'a plus la même forme pour nous, puisque la foi met toute la lumière du Verbe incarné dedans. Donc c'est la forme du Verbe incarné qui est dans l'Eucharistie, transformation. C'est la foi qui fait ça. Tandis que dans l'Eucharistie, c'est pas la foi qu'il fait, c'est Jésus qui le fait par sa toute-puissance. C'est une différence très très grande. Alors, vous voyez, et tout ça est lié à la succession apostolique. Donc c'est pas la peine de discuter avec les protestants sur ceci, sur Marie, sur la Seine. Laissez tomber à chaque fois tout ça et tout de suite aller à la succession apostolique. En expliquant bien que c'est un enseignement que vous avez reçu du pasteur Schmitt, d'un pasteur, le plus grand pasteur théologien de France, participant à tous les trucs d'œcuménisme, à haut niveau. Hein. Bon. Voilà, c'est très important de comprendre ça, vous comprenez bien, évidemment. C'est pour ça que, quand on dit qu'il y a une protestantisation de l'Église catholique, c'est pour ça qu'il y a un phénomène qui s'est produit depuis 30 ans, c'est que l'adoration du Saint-Sacrement en dehors de la messe a été pulvérisée. C'est pour ça d'ailleurs que nous prendrons Jésus hostie et on le baladera partout en l'adorant. Et quand on met Jésus dans les tabernacles complètement planqués, c'est pas important, ce qu'il faut regarder c'est je sais pas quoi, c'est les sièges écrits en cerf, etc. Non, non, ça va pas ça. Alors donc, vous voyez, la différence très très grande. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? C'est la première question, c'était Gloria ça.
Vous pouvez nous donner, alors vous avez donné la matière de réconciliation.
Ah, pour les sept sacrements, quelle est la matière, quelle est la forme? Pour chaque sacrement, quelle est la matière et quelle est la forme? Ah mais non, c'est vraiment...
Pas théologien.
Je l'ai dit.
Bon, pour le baptême, la matière, c'est l'eau. L'eau qui exprime en même temps le désir hein, du baptême, bien sûr. L'eau exprime le désir du baptême, mais enfin, c'est quand même la matière. C'est un peu les deux matières, mais en une seule. L'eau, c'est ça. Et puis la forme, c'est la formule. Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la forme. Tous les chrétiens peuvent baptiser. Si quelqu'un vous demande de le baptiser, vous n'avez pas le droit de le faire, bien sûr. Comme ça, tiens, ah, je te baptise, vous n'avez pas le droit de le faire. Sauf s'il est à l'article de la mort. Par exemple, vous avez un petit enfant, une fausse couche. Vous avez une fausse couche, vous allez le baptiser. Évidemment. La maman qui a une fausse couche, il faut qu'elle baptise son petit. Il a droit quand même à aller au ciel, non? Attends, doucement. Pas tout en même temps. Hein. Donc, on baptise son petit. Pareil, pour les enfants qui sont avortés, pareil, il faut les baptiser. Démerdez-vous. Et c'est très... Alors, il y a des... Sur le baptême des enfants en fausse couche, justement. Comment est-ce qu'on fait, alors? Alors ça, c'est de la philosophie, essentiellement. Vous savez qu'il y a trois manières d'être baptisé. Baptême de désir, baptême d'eau, baptême de sang. Bon. Lorsqu'une maman a un petit bébé et qui meurt sans qu'il ait reçu le baptême, le désir de baptême actuel, lucide, le désir de baptême des parents vaut baptême pour l'enfant. Le désir du baptême de la mère, s'il meurt comme ça, c'est bien surprenant, vaut baptême. Donc il faut qu'elle l'ait baptisé intentionnellement avant. Pour ça, elle fait un petit geste liturgique de temps en temps, elle le consacre à Dieu au moment de la conception, à l'instant de la conception. Bien sûr. C'est élémentaire. Et puis, tout le temps. Tout le temps, elle le baptise. Tout le temps. Vous voyez? Elle le baptise, j'allais dire, en désir, tant qu'elle est enceinte. Vous voyez? Et tant qu'elle est enceinte, elle le fait parce que le caractère du baptême qui est dans son âme de mère imprime l'âme de l'enfant qui est dans son sein. Parce que le caractère est dans la chair et le sang. Et ils ont le même sang. Donc l'enfant est baptisé. Si elle actualise son baptême en union avec son enfant, le baptême fait son œuvre dans l'enfant. Donc le désir de baptême pour l'enfant vaut baptême pour l'enfant. Le désir de baptême de la mère pour l'enfant vaut baptême. Baptême de désir. mais aussi quelqu'un qui a le désir d'être baptisé, qui meurt noyé dans un accident, hop, il est baptisé. Bon, quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui est persécuté, au nom du Christ, baptisé. Baptême de sang, bien sûr. Et puis le baptême d'eau, sacrement. Trois baptêmes, trois manières d'être baptisé. Quatre même, donc, avec le désir de baptême de la mère. Bon, alors maintenant, quelqu'un qui a une fausse couche. Bon, quelqu'un qui a une fausse couche, vous comprenez bien. Non, prenons plus simplement quelqu'un, une maman, qui considère que c'est pas un homme, vous voyez. C'est pas un homme, c'est pas un être humain, donc elle peut s'en débarrasser. Bon. Au point de vue strictement juridique, et au point de vue strictement du droit, et au point de vue philosophique, les trois, on peut affirmer qu'elle n'est pas la mère de l'enfant. Elle a perdu son droit parental. Elle n'est pas la mère, parce que ce qui fait la mère, c'est le fait qu'on... C'est une relation toujours de personne à personne, c'est le fait qu'il y a une relation de fécondité substantielle qui fait que c'est une personne qui sort de moi. Donc, dès lors qu'elle ne reconnaît plus que c'est une personne humaine, un être humain, ça n'est plus la mère. Qui devient donc la mère ? Devient la mère immédiatement ? Ceux qui considèrent que c'est un être humain. Donc, l'Église devient réellement la mère, puisque dans le monde entier, c'est le seul, la seule organe, j'allais dire, qui explicitement considère que ce sont des êtres humains. Donc l'Église devient la mère. L'Église, c'est nous. Hein. Donc le désir de baptême de la mère pour l'enfant vaut baptême pour l'enfant. Vous voyez ça? Alors c'est pour ça que vous allez actualiser ce désir en lançant de l'eau bénite comme ça aux quatre coins de la terre, en disant « Allez, Adolphe, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout simplement. » Et vous pouvez le faire en union avec Marie, bien sûr, l'Immaculée. Vous voyez, parce que le problème, c'est que le sang, votre sang ne circule pas dans les veines de l'enfant. Hein. Ce n'est pas le même sang. Donc, le caractère du baptême donc, ne se transmet pas. Vous voyez ça? Alors, c'est pour ça que vous pouvez quand même transposer, je dirais, ce désir dans le désir de la Sainte Vierge, dans le désir de l'Immaculée, qui, elle, de manière suprême, reconnaît bien entendu la chose. Et là, à ce moment-là, vous voyez, elle complète. Mais il y a une liturgie spéciale, hein, tout à fait reconnue. Il y a un ordo. Hein. Les baptisés peuvent le faire. Ils sont tous in articulo mortis. Donc, vous pouvez les baptiser. Vous avez le droit. Non.
Il n'y a pas de l'eau.
Non, on ne peut pas, parce que dans le sang, c'est pas de l'eau. C'est pas la matière du sacrement. On ne peut pas baptiser avec du sang. Ça ne fera pas de baptême. Il n'y aura pas de caractère du baptême si tu fais ça. Ah non, c'est pas l'intention qui fait le baptême. C'est le désir de la mère. Ou le désir de la...
Par exemple, si je suis dans un désir, je dois baptiser un enfant, il n'y a pas d'eau. Là où je veux qu'il soit sauvé, que
si. Eh bien, le bon Dieu fera couler de l'eau. Tu frapperas le rocher et tu auras de l'eau. Ah non,
non.
Ben, ni toi non plus, parce que s'il n'y a pas d'eau, tu crèves. Hein.
L'enfant est sauvé ou pas?
Non. Si, est-ce qu'il est sauvé? Alors, qu'est-ce que deviennent les enfants que personne n'a baptisés et qui sont innocents et qui meurent comme ça? Eh bien, ils vont dans les limbes, c'est-à-dire, ils vont pas au ciel, ils vont dans les limbes. Ça veut dire qu'ils vont pas en... Ben oui, parce que la vision béatifique est impossible et fermée à tous ceux qui n'ont pas reçu la grâce sanctifiante du baptême. Bon. Vous direz, c'est injuste. Non, c'est pas injuste. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain avec une nature humaine. Et les enfants qui sont innocents, très probablement, ce n'est pas affirmé absolument par l'Église. Donc ce n'est pas de foi ce que je vous dis là. Hein. Pas du tout. Hein. Mais enfin, c'est la pensée habituelle de l'Église. Considérez que... Donc, c'est pas du tout obligé de le croire. Hein. C'est, je vous donne, disons que je vous donne mon opinion, si vous préférez. Hein. Mais c'est une pensée très, très habituelle de l'Église. Que ils sont admis au paradis terrestre. Enfin, dans les limbes, c'est-à-dire qu'à la résurrection, leur corps ressuscitera, pareil, et ils seront admis au paradis terrestre, mais pas au ciel. Le paradis terrestre, c'est quoi? C'est le lieu où la nature humaine peut avoir son maximum de bonheur et de plénitude au plan humain. Toujours en union avec Dieu, mais sans connaître la vision béatifique. Tandis que le ciel, vous voyez, notre bonheur céleste dans la vision béatifique est un bonheur surnaturel, qui est le bonheur de Dieu lui-même, n'est pas dû du tout à notre nature. Ces enfants-là ne seront complètement comblés au point de vue humain, au point de vue de leur nature, de leur cœur, de leur intelligence, de leur corps, complètement comblés. De leur aspiration à connaître Dieu et tout. Complètement comblés, au plan humain. Tandis que nous, au ciel, on aura en plus la béatitude avec l'intensité de béatitude que Dieu a en lui-même. On goûtera l'amour sur un plan surnaturel. On verra Dieu comme Dieu se voit lui-même. La lumière de gloire qui va s'emparer de nos yeux, de notre intelligence, de notre cœur, pour faire que cette lumière de gloire, vous voyez, c'est ce qui va faire que, je ne sais pas comment vous dire, hein, qui va faire qu'on verra Dieu comme Dieu se voit. Et on goûtera de l'amour de Dieu avec la même saveur, la même intensité, le même caractère infini avec lequel Dieu s'aime lui-même. Donc l'amour de Dieu, ça. Mais ce n'est pas du tout dû à notre nature. C'est une gratuité absolue. Personne ne pourrait désirer avoir ça. On peut le désirer parce que Jésus nous le promet, mais c'est tout. Le paradis et le ciel, c'est deux choses totalement différentes. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas sauvés. Ça veut dire que s'ils ne sont pas baptisés, ils sont dans une demeure de béatitude, bon, qui est la demeure des limbes pour l'instant, puis le paradis terrestre probablement, après. Mais si, seulement il y a le péché originel, hein? Ah! Alors, ça va mettre quelqu'un au paradis terrestre alors qu'il est péché originel, hein? Quand tu résous ça. Donc il y aura peut-être quelque chose aussi là. Alors, ils auront besoin d'une purification. C'est pour ça qu'ils sont aux limbes. Et on dit bien que les limbes font partie du purgatoire. Nous aussi on en bave, hein? Sur la terre, hein? Je me rappelle, j'avais ma soeur, une de mes soeurs, je ne sais pas qui c'est, j'espère que personne ne la connaît, qui avait fait un jour une... Elle a eu beaucoup de garçons, etc. Et alors, elle voulait avoir une petite fille. Alors, malheureusement, c'était une fausse couche. C'était une petite fille. Elle était désolée. Elle avait beaucoup de mal à se relever de cette choc. Et elle m'avait dit, ben voilà. Ah ben, je lui ai dit, mais j'espère que tu as pensé à la baptiser. Oh, ben, pourquoi faut la baptiser? Quand? Mais je lui ai dit, bien sûr! Complètement fou, ce soir. Bien sûr, il faut la baptiser. Ben, c'est trop tard. Bon, alors... Ouais, mais déjà, à cette époque-là, moi, je baptisais les enfants. Mais... Avec leur dos. Je faisais ça tous les soirs. Avec l'eau bénite. Du bénité de la chapelle. Alors... Bon, je ne l'ai pas dit, de toute façon, on en s'est occupé, mais le... Ah, bien sûr. Et puis, on fait un jour une neuvaine pour elle, c'est-à-dire pour, son, en fait, pour sa famille, pour son mari, qui n'était pas croyant, etc. Bon, c'était athée, ça faisait quand même 15 ans qu'elle en bavait, ramait avec son mari. Bon. Ça, à force de ramer, un jour on attaque la falaise. On attaque. Alors, du coup, on fait une neuvaine. Tous les frères et sœurs, tous les neveux, le grand-père, tous les soirs, font une neuvaine au Padre Pio. La fameuse neuvaine, vous savez, irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, du Padre Pio. Tout le monde, chaque année, dans notre famille, on fait une neuvaine par an. Et préparer un trimestre avant pour savoir qui Dieu a désigné comme victime. Pourquoi il désignait comme une victime, quoi on doit demander exactement, et quoi comme neuvaine on doit faire. On fait ça à chaque fois. Mais enfin, cette année-là, c'est tombé sur ça. Et il y a quelqu'un d'entre... Je veux dire, c'est moi, en fait. Donc il y a quelqu'un d'entre nous, qui est le neuvième jour de la neuvaine, au moment où il faisait la neuvaine, à la fin, il s'est prosterné, et j'ai vu la petite fille. Petite fille. Enfin, j'ai vu la Sainte Vierge. Oui, non. J'ai une image du Père Pio, exactement comme quand vous faites un rêve. Donc pas du tout glorieux, c'est une image comme ça du Père Pio. C'est curieux parce que je pensais pas du tout à lui. C'est vrai que c'était une neuvaine inventée par le Père Pio, mais... Donc j'ai vu une Père Pio qui priait comme ça. Je le voyais, il priait comme un fou, juste en visage. Et il regardait, il était fixé en priant. Et puis j'ai vu qu'à un moment, effectivement, la Vierge était là, en gloire, vous savez. Une très très belle, en gloire, très glorieuse, avec la lumière éternelle de Dieu dans les bras, ça qui irradiait. C'est une espèce de lumière, je ne sais pas comment dire. Alors elle, c'était pas comme dans un rêve, hein. Ça sûrement pas. Et alors, c'était un petit peu comme... Enfin, peu importe comment elle était. Et j'ai vu donc cette petite fille, c'était 4 ans après fausse couche, 4 ans, elle avait grandi dans ses larmes, son paradis, et elle avait ramassé toutes les fleurs. Vous savez, quand vous avez une vision, vous avez en même temps la signification de la vision. Hein. Elle avait toutes les fleurs qui rassemblaient toutes les prières de la famille et de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a souri en disant « C'est entendu ». En tout cas, j'ai dit à ma sœur, elle est mignonne, hein, ta fille. Hein. Non. C'est juste pour faire comprendre. Non, j'ai pas vu, non. Non. Donc vous voyez, faut comprendre ces choses-là, c'est très simple. Et en fait, vous voyez comment il faut être patient, il s'est converti 9 ans après. 9 ans quand même. À mon ordination. À la sortie. Ouais, c'est quand même sympa. C'est la seule fois où j'ai obtenu une grâce. Du bon Dieu. C'est la seule fois que j'ai pu obtenir une conversion du bon Dieu. Mais pas tout seul, j'avais toute l'armada avec moi. Bon, bref, vous voyez, tout ça pour les petits-enfants sont sauvés, comprenez bien. Ils sont parfaitement sauvés. C'est pas ça la question. Seulement, ils n'ont pas droit à la vision béatifique. De toute façon, c'est pas un droit, la vision béatifique. Tous les musulmans et tous les gens qui ne sont pas baptisés, c'est pas un droit, la vision béatifique. C'est pas un droit dû à notre nature. La nature réclame une plénitude de bonheur naturel, en lien avec Dieu, tout à fait d'accord. La vision béatifique, c'est tout à fait autre chose. Mais pourquoi est-ce que... Il y a quelqu'un... Pourquoi est-ce que tu as une violette ici, une rose là? Est-ce que tu vas loucher sur la violette en disant « j'ai pas une violette » Mais non, tu comprends, c'est ce qu'on dit toujours. Ah, merci Seigneur d'avoir créé le monde comme ça, parce que si c'est moi qui avais créé le monde, j'aurais fait que des roses. Et non, chacun atteint, j'allais dire, son bonheur, sa prédestination dans la gloire. Et il y en a qui ne veulent que la justice, ils vivront éternellement de la justice. Voilà, c'est très simple, c'est pas.
Mais ça, bon. On l'enseigne plus, hein, les lames.
Non, c'est pour.
Je l'ai appris au catéchisme.
Ah, tu l'as appris au catéchisme quand même. Oui, mais moi aussi, je l'ai appris au catéchisme.
Mais actuellement, c'est vrai que.
C'est quand même la pensée de l'Église, si tu veux. Mais tout de suite. Donc, au catéchisme, on n'enseigne même pas l'Eucharistie, alors. Comment veux-tu qu'on enseigne les limbes?
Tout le monde est sauvé actuellement.
Ah bah oui, oui, oui. Donc autre question ou bien... Ah, c'est l'heure de la messe. Hein, largement. Ah, parce que c'était la matière et la forme de tous les sacrements. Alors, je termine. Ça, c'était pour le baptême. Donc, ah bah mon vieux, l'Eucharistie, je vous l'ai dit. La pénitence, je vous l'ai dit. Le sacrement de confirmation, c'est le Saint-Crème.
Et l'imposition de main.
Ah ben ça, oui, le Saint-Crème d'une part, et le fait que ce soit l'évêque qui vous prononce les paroles en disant « je te confirme », ça. Il faut que les paroles soient dites exactement. Hein. S'il y a un seul changement dans un seul mot des paroles, il n'y a plus de sacrement. Par exemple, si je dis « ceci, vois ici mon corps », ou bien ceci est votre corps, ou bien ceci est... Ouais. Chut, il n'y a pas de sacrement. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste? Le mariage. La matière du sacrement de mariage, c'est si la relation entre l'homme et la femme est une relation qui a évolué suffisamment profondément pour être une amitié, pour avoir atteint un degré de maturité qui atteignent le point de vue spirituel. Donc, par exemple, vous avez plusieurs degrés. Le degré physique, je l'ai dans la peau, je me marie. Il n'y a pas de sacrement. Alors, je suis fou, amoureux, j'ai un coup de foudre, paf, je me marie. Pas de sacrement. On ne se marie pas parce qu'on est à cause de qu'on est amoureux. C'est pas la matière. Eh bien, il n'y a pas de sacrement. C'est justement pour ça qu'il y a possibilité de discerner pour voir s'il y a eu sacrement ou pas. Ah ben si, c'est obligatoire, on doit toujours faire un discernement. Le prêtre doit faire le discernement.
Tu maries par exemple parce que j'ai des problèmes...
S'il n'y a pas de liberté de consentement, pas de sacrement. S'il n'y a pas de désir d'enfant, pas de sacrement.
Avec sa fille qui marie à l'enfant.
Ah oui, mais la fille peut accepter librement la volonté du père. Ah si, elle accepte librement la volonté du père. Ah non. Si elle choisit de choisir ce que le père a choisi, ça va.
Si par exemple, elle ne choisit pas ce que son père a choisi, non, on peut aller
plus loin. Ah ben dans ce cas-là, il n'y a pas de sacrement. De quoi? Me reprendra si vous voulez ça. Donc le mariage, il faut qu'il y ait... Il y a 33 degrés, n'est-ce pas, dans le degré de profondeur de l'amour humain. Hein, entre l'homme et la femme, 33 degrés de profondeur. Alors il faut que ça atteigne au moins le 24e degré. Bon, alors... Non, en général, l'Église considère seulement les trois. C'est-à-dire... trois grandes zones. Quand on donne le sacrement des malades, moi personnellement, je peux dire, je ne sais pas comment font les autres, on n'en parle pratiquement jamais, mais parce que ça s'utilise très peu le sacrement des malades. Mais je sais que moi, à chaque fois que j'ai donné, il y a une guérison. Ah si ? Le sacrement des malades donne la guérison physique. Ah, moi, j'ai constaté... Je l'ai pas donné souvent, j'ai donné 5 fois, j'ai constaté 4 fois. La 5e fois, je sais pas, j'ai pas revu.
Aussi, souvent, je connais des malades qui...
Ah oui, oui.
Fois, puis ils sont...
Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais... Ah si, à cause du sacrement. C'est le sacrement pour guérir l'âme et le corps. Ah, mais bien sûr. Mon arrière-grand-mère, qui a clamsé à peu près 5 ou 6 fois, on lui a donné à chaque fois le sacrement des malades, comme était une très grande foi. À chaque fois, c'était une véritable résurrection. Elle repartait pour 5 ans, pour 2 ans. Si bien qu'elle est morte très âgée. Et le jour où elle est véritablement morte, elle a laissé 347 descendants vivants directs. Bah, elle a dû en avoir 11, ma grand-mère 15, enfin, ça va très vite à ce moment-là. Voilà. Voilà, exactement. Ça donne une guérison de toute façon de l'âme en lien avec le corps, ou de l'âme et du corps, ou du corps. Bon, en tout cas, ça donne toujours une guérison. Et c'est Dieu qui choisit quelle guérison il va faire. Ça donne toujours une guérison. Ex opere operato, hein, tous les sacrements agissent de manière efficace, que tu le veuilles ou non. Non, pas du tout.
Mais alors, on va passer derrière tous les gens, puis on va les baptiser dans le dos avec de l'eau bénite.
Mais non, parce que là, il faut le désir. On avait dit que la matière, il faut le désir du baptême. Il faut le désir. On a dit que la matière, il faut l'eau et le désir. On a dit pour la matière.
Ah oui. C'est ça. Je veux
tout savoir. Bon, on va célébrer la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie.